On dit parfois, en amour comme en la guerre, tout est permis. Ce qui n'est pas vrai, tout n'est pas permis, ni à l'amour, ni à la guerre. Mais bien souvent, c'est vrai, l'adversaire ne joue pas clean, il ne joue pas franc jeu. Vous avez regardé un match de foot, certainement, quand l'arbitre ne regarde pas, l'autre il va faire un coude dans le côté ou bien un croche-pied pour faire trébucher son adversaire, espérant que l'arbitre ne voit pas. Ou bien pendant que l'arbitre voit, il va feindre une blessure grave, espérant obtenir un carton rouge contre l'autre. Mais effectivement, souvent dans les combats et dans la guerre, l'adversaire ne joue pas clean, ne joue pas franc jeu. Et c'est ce que va vivre Néhémie dans ce chapitre. Mais comme Néhémie, la Bible nous appelle nous aussi à tenir ferme contre les ruses de l'ennemi dans notre vie de foi. Nous avons vu plusieurs formes d'opposition. Les ennemis vont tout faire pour arrêter ce projet de construction de la mur de Jérusalem qui représente toute le renouveau, la renaissance de ce peuple dans sa ville, la renaissance de sa foi aussi, son attachement à son Dieu. Et ils veulent reconstruire cette ville, notamment cette muraille. Et donc les ennemis sont pas contents et ils vont tout essayer pour l'arrêter. Donc en chapitre 4, nous avons vu, ils ont essayé la violence physique, la force physique pour les freiner. Mais ça n'a pas marché, Néhémie et ses ouvriers étaient courageux, ils se sont défendus. Et puis en chapitre 5, nous avons vu la menace des divisions internes qui auraient pu mettre à terre ce projet si le peuple à l'intérieur commençait à se chamailler, à se diviser, à ne pas s'aimer, à ne pas se pardonner. Là, le projet était en péril. Et maintenant, il reste encore une stratégie de l'ennemi pour faire dérailler ce projet. Il s'agit des ruses et des pièges et des mensonges, notamment contre la personne de Néhémie. C'est lui le responsable du projet. Et ils vont essayer de détruire la réputation de Néhémie, d'effrayer, décourager Néhémie pour le mettre hors service. Et comme nous, à notre époque, nous pouvons savoir que nous avons des ennemis spirituels et eux, ils ne jouent pas selon les règles. Tous les coups sont permis pour vous empêcher de vivre pour Dieu, de vous empêcher de réussir une vie d'église, une vie chrétienne. Alors le but ce matin, c'est de ne pas se laisser faire, c'est de ne pas être intimidé par les ennemis autour de nous. Il y en a de nombreux, mais comme Néhémie, nous pouvons avancer sur de la victoire, sur de l'aide et de la présence de Dieu. Vous savez, nous prions souvent dans le Notre Père, ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Et c'est ce que Néhémie va expérimenter dans ce chapitre. Il va être gardé de la tentation et gardé du malin. Alors ce matin, j'aimerais pour déjouer les ruses et les pièges de l'ennemi, nous allons d'abord les voir, comment l'ennemi s'est pris, ensuite la réaction de Néhémie, et enfin la réussite du projet. Donc les ruses de l'ennemi, ensuite la réaction de Néhémie, et enfin la réussite du projet. Et avant d'entamer ces points, arrêtons-nous quelques instants, et pour chacun, réfléchissons. Qu'est-ce qui a tendance de vous arrêter dans votre élan de foi, dans votre obéissance au Seigneur? Qu'est-ce qui vous donne envie de baisser les bras dans la vie chrétienne? Si votre participation à une vie d'église est très sporadique, s'il y a toujours des excuses pour ne pas venir, ou si par exemple votre relation avec Dieu en ce moment est au minimum syndical, ou bien encore ce matin, si vous hésitez à accepter le message chrétien, si vous hésitez à croire la vérité chrétienne que Jésus est mort, ressuscité pour vous, si vous êtes rempli de doutes, ou bien si ce matin vous avez encore l'amertume, peut-être envers Dieu ou envers d'autres, posez-vous la question, considérez la possibilité qu'il s'agit là des ruses et des pièges de l'ennemi, du diable, qui aimerait bien que vous passiez à côté du plan de Dieu pour votre vie, qui aimerait bien que vous arrêtiez de le servir, qui aimerait bien vous mettre hors service. Peut-être c'est pas juste la vie, on se dit c'est comme ça, j'ai des obstacles dans ma vie en ce moment, je suis découragé, c'est comme ça, mais pensez à la possibilité que derrière il y a une ruse, il y a un piège. Et quand on voit la ruse, la ruse est déjouée, une fois que vous avez compris que c'est une ruse, vous êtes plus fort. Et c'est le but ce matin. Donc voyons les ruses de l'ennemi. Dans ce chapitre, on voit 3 tentatives ultimes pour mettre à terre le projet de Néhémie, ce projet de construction. Ce projet qui arrive presque à terme, il reste que les portes à poser, tout le reste est fait, selon verset 1. Et donc les ennemis commencent à paniquer et ils vont tenter encore 3 choses ici. Et chacun c'est rusé, c'est une piège, c'est malhonnête. Donc voyons ces choses. Tout d'abord, en verset 2, ils vont envoyer une lettre à Néhémie et ils proposent « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono ». Donc, ils proposent une entrevue, un entretien, des réunions. Des réunions dans les villages. Il y a peut-être un jour de voyage pour aller de Jérusalem à ces villages d'Ono. Alors, le but ici, c'est de le leurrer loin de la ville et du projet, certainement pour le divertir, pour le distraire de ce qu'il a à faire. Alors, en l'invitant à cette entrevue, soit c'est vraiment un guet-apens, et ils vont pouvoir le kidnapper ou même le mettre à mort. Mais sans aller jusque là, il suffit de le retenir et l'empêcher de diriger des travaux pour nuire au projet. Et Néhémie sait que, voilà, il sent la chose, ça va être des réunions sans cesse et sans fin, et ça va interrompre les travaux. Donc Néhémie voit que c'est une ruse, c'est une piège. Donc ce piège de devoir distraire Néhémie, de le divertir de sa mission principale, ça c'est une ruse classique de l'ennemi. Et nous, à notre époque, est-ce que le divertissement et la distraction font partie des ruses de l'ennemi pour nous empêcher de vivre notre vie de foi? Vous le savez, c'est même la ruse peut-être la plus réussie du diable en Occident. Il n'a pas vraiment besoin de la violence ouverte, la persécution, s'il réussit déjà cette ruse du divertissement, de nous divertir, de nous distraire du projet que Dieu nous a donné. Si vous ne remplissez pas votre agenda, Satan se chargera volontiers de le faire. J'aime bien ce livre de C.S. Lewis qui s'appelle « Tactique du diable ». Et en fait, c'est imaginé, c'est pas un commentaire vraiment théologique sur comment fonctionnent les anges et les démons, mais dans un cadre imaginaire, il fait écrire un démon expérimenté des lettres à un démon novice pour savoir réussir à tenter un chrétien, à tenter à induire un chrétien dans la tentation et dans les chutes pour l'empêcher de vivre la vie chrétienne. Donc c'est de la fiction, mais la manière qu'il s'est écrit, ça dévoile aussi, ça nous aide à comprendre les tentations. Et donc, il consacre dans ce livre tout un chapitre sur les distractions, notamment. Et donc, le démon, le formateur, on va dire, il va encourager son apprenti à pousser le chrétien à passer des heures sans rien faire dans un canapé, devant la télé, par exemple. Il disait, déjà si tu fais ça, t'as pas mal réussi. Donc voilà ce qu'il dit, je vais vous lire un extrait. Tu me diras, c'est le formateur qui parle, tu me diras qu'il s'agit là de bien petits péchés. Et sans doute, comme tous les jeunes tentateurs, tu es impatient de pouvoir nous annoncer des perversions spectaculaires. Mais rappelle-toi que la seule chose qui compte est la mesure dans laquelle tu as réussi à séparer ton protégé de l'ennemi. Alors, quand deux démons parlent, l'ennemi, il s'agit de Dieu, de Jésus-Christ. Tu as réussi à séparer ton protégé de l'ennemi. Peu importe que ses péchés soient graves, pourvu que leur accumulation ait pour effet de l'écarter tout doucement de la lumière pour le conduire dans le néant. Un meurtre ne vaut pas mieux qu'une partie de cartes, si celle-ci peut faire l'affaire. En effet, le chemin le plus sûr pour l'enfer est celui qui y mène progressivement. C'est la pente douce, bien feutrée, sans virage trop brusque, sans borne kilométrique, ni poteau indicateur. Donc voilà comment il conseille ça. Et on commence à voir la ruse et le piège de l'ennemi, de nous distraire, de nous divertir par des choses plutôt innocentes, ayant une entrevue. Ça peut flatter l'ego de Néhémie qui disent finalement les dirigeants m'incluent dans leur réunion, je vais pouvoir dire quelque chose. Mais Néhémie voit que c'est une piège pour le divertir de sa vraie mission. C'est vrai que même les églises, même les responsables d'églises peuvent être ainsi distraites si on oublie notre mission première d'annoncer l'évangile, d'être une lumière dans ce monde. Parfois, toute cette démarche œcuménique qui veulent qu'on ait beaucoup d'entrevues et d'entretiens entre religions peuvent nous distraire. C'est bien d'aimer son prochain et de le connaître et de le comprendre. Mais si c'est pour compromettre la foi, ça peut être dangereux. Ou si une église se lance trop dans d'autres programmes que celui d'annoncer l'évangile, d'enseigner la Bible, il y a un piège, une ruse d'être diverti de notre mission première. Et Néhémie n'est pas tombé dans ce piège-là. Alors, celui-là ne marche pas, donc ils vont tenter un deuxième. Ils vont passer à une deuxième étape. Et là, à partir du verset 5, Sambala m'envoya ce message une cinquième fois. Donc, ils ont essayé quatre fois déjà, ça n'a pas marché. Et une cinquième fois, mais cette fois-ci, il y a une nouveauté, il y a une lettre ouverte. Donc qui est lu publiquement, comme on peut encore aujourd'hui trouver des lettres ouvertes envoyées à toute la population. Et dans cette lettre ouverte, ils vont accuser Néhémie de vouloir être roi pour se révolter contre l'empire perse. Donc ils ont inventé tout un mensonge, toute une calomnie pour tourner les Perses et l'opinion publique contre Néhémie. Donc là, le ruse ici, il s'agit de la diffamation, de la calomnie. Pour décourager Néhémie, si Néhémie a peur de ce qu'ils disent, de ce que les autres vont penser de lui, peut-être il va arrêter les travaux. Donc c'est la diffamation et c'est mensongère. On connaît Néhémie, on a fait connaissance avec lui dans le premier chapitre. C'est un ministre fidèle du roi à Suse, à la capitale perse. C'était l'échanson du roi. Donc s'il y a une personne dont on veut être sûr, une personne de confiance, c'est l'échanson qui va veiller sur la vie du roi. Et visiblement, le roi s'entendait bien avec Néhémie, il avait confiance en lui. Donc c'est la calomnie, parce que Néhémie a déjà prouvé qu'il était soumis aux autorités, qu'il respectait l'empereur, qu'il a toujours fait des choses correctement. Et donc là, ils vont accuser Néhémie, c'est toi, tu as embauché des prophètes pour te proclamer roi. Voilà, tu veux tout le pouvoir pour toi-même et tu veux lancer une révolte et tu veux déstabiliser tout l'empire. Donc vous voyez comment la diffamation peut être aussi quelque chose pour nous intimider et pour nous faire taire notre témoignage. Je pense à notre époque, souvent d'affirmer des vérités chrétiennes, de vivre la vie chrétienne. On peut être traité de raciste ou de sexiste ou d'homophobe parce que on aime la Bible, on croit ce qu'elle dit. Cette semaine, j'ai vu l'évolution des choses, parfois inquiétante, mais cette semaine, c'était Instagram qui appartient à Facebook. Et maintenant, ils veillent sur le contenu de plus en plus, y compris le contenu chrétien. Alors, il y avait juste une image, c'était une image du titre d'un article de blog qui était, le titre, c'était « Le pastorat réservé aux hommes ». C'est le pastorat réservé aux hommes. Eh bien, ça a été supprimé pour discours haineux, avec menace qu'on va fermer le compte si ça continuait. Et ce genre de propos, on va rencontrer de plus en plus facilement de nos jours ce genre de pièges, de ruses, de diffamations. Et comme Néhémie, parfois, il faut simplement dire non, c'est pas vrai, tu l'inventes. C'est pas ce qui passe dans mon cœur. Donc Néhémie, il tient bon, il se remet à Dieu. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi face à toute cette diffamation, mais je continue. Comme nous pouvons aussi continuer, malgré ce que d'autres pensent de nous, si on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Donc, une dernière ruse, maintenant, peut-être plus subtile que les autres. D'abord, ils ont essayé de le distraire de sa tâche, de sa mission. Ensuite, ils ont essayé de le diffamer. Et maintenant, ils vont essayer de lui faire désobéir pour détruire son témoignage. Ça, c'est dans les versets 10 et suivants. Il se rend chez un certain Shemedja, qui se dit prophète. Et cet homme va lui prophétiser et lui dire, écoute, les hommes viennent pour te tuer cette nuit, donc on va se réfugier ensemble dans le temple. Donc, il essaie de faire peur à Néhémie en disant, voilà, Dieu m'a dit que des choses arrivent, donc viens avec moi, on va se cacher dans le temple. C'est Dieu m'a dit tout ça, je suis prophète. Mais en fait, Néhémie voit que c'est encore une ruse, un piège. et que Dieu ne l'avait pas envoyé, mais c'était pour le faire chuter, le faire désobéir, le faire, comme il dit, pour porter atteinte à ma réputation, pour me couvrir d'opprobre. Verset 13. Là, c'est de bon rappel que les faux prophètes, les fausses prophétesses, parce qu'il y a même, il mentionne d'autres, il n'y a pas que ce Shemeja, il y a d'autres, notamment une certaine Noadia, une prophétesse, qui se mettent ensemble pour lui donner finalement du mauvais conseil, des fausses prophéties, pour l'encourager à désobéir. Les faux prophètes, les fausses prophétesses sont bien présents dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, et nous sommes appelés, nous, à discerner, à savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Alors ça, c'est une bonne question. Êtes-vous en mesure de reconnaître quand quelque chose ne vient pas de Dieu? Quand un conseil qui vient de quelqu'un qui se dit spirituel, ou bien un conseil d'un psychologue, ou même d'un ami, même d'un membre de la famille, comment savoir si c'est du bon conseil, si ça vient de Dieu, ou si c'est finalement derrière un piège du diable? Même Jésus, c'était son ami Pierre qui a essayé de le détourner de sa mission. Et il a reconnu derrière Pierre la voix de Satan, arrière de moi Satan, il a dit un jour à son ami Pierre. Est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître quand quelque chose ne vient pas de Dieu? Mais Néhémie, ce qui va garder Néhémie, c'est que il connaît sa Bible et il peut tout mesurer par déjà ce qu'il connaît de la parole de Dieu, de la Bible. Et là, c'est clair. Et lui, il sait que les Lévites, il n'y a que les Lévites et les prêtres qui ont droit d'entrer dans le temple. Lui, il n'en est pas un. C'est un laïc, c'est un gouverneur. Et donc, il ne va pas entrer dans le temple parce qu'il sait que s'il entre dans le temple, soit il encourt le jugement divin. Il y avait un certain roi, Ozias, qui a fait ça et qui était frappé de lèpre. Ou bien, en tout cas, s'il entre dans le temple, maintenant, ils auraient plus qu'une fausse accusation. Ce serait plus de la diffamation. Ils auraient une vraie accusation pour dire, voilà, c'est un homme qui ne croit pas en Dieu, qui n'obéit pas à Dieu. Donc voilà, la chute morale de ce dirigeant, on va pas pouvoir le suivre. Et là, donc là, c'est mieux qu'une diffamation, ce serait une vraie chute. Et là, le canard enchaîné de l'époque, ce serait fait un grand plaisir de publier ça à la une. Mais Néhémie ne se laisse pas faire et il voit la ruse et le piège et n'écoute pas comme nous. Nous pouvons mesurer tout ce que nous entendons, tous les conseils, tout ce qu'on nous dit par la Bible, par la parole de Dieu, pour savoir si nous sommes dans la vérité. D'où aussi l'importance pour les responsables du chrétien de vivre proche de Dieu, de vivre dans une transparence et de maintenir leur témoignage pour ne pas faire couvrir d'opprobre le peuple de Dieu. Donc voilà les ruses de l'ennemi. Maintenant, on va essayer de résumer un peu la réaction de Néhémie face à tout ça. Il ne se laisse pas faire. Il tient ferme face à toutes ces ruses. Il aurait pu dire, j'en peux plus de toutes ces attaques, de toutes ces critiques, de toutes ces fausses accusations. Je rentre à Suse. Je reprends mon boulot des chansons où j'étais considéré, j'étais respecté, j'étais confortable. Mais il fait pas ça. Il tient bon. Comment Néhémie tient bon? Comment il a cette réaction courageuse de persévérer? Je pense que c'est deux choses qui ont été déjà évoquées dans ce culte ce matin. D'abord, lui, il garde les yeux fixés sur Dieu, sur sa mission. Il garde ses yeux fixés sur Dieu. Et puis, une autre chose qui rappelle que Dieu a son regard, sa pensée sur nous. Donc, Néhémie, il n'oublie pas Dieu et sa mission. Et ensuite, il n'oublie pas que Dieu, il sait que Dieu ne l'oublie pas. Néhémie a toujours gardé le cap. C'est ça qui est très fort. Il ne se laisse pas intimider. Il ne se laisse pas dévier de sa mission. Il dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter et tout le reste, laissez-moi tranquille, j'ai cet ouvrage à exécuter. Et pour vous aussi, il faut un cap, il faut une vision, il faut un but dans la vie pour ne vous pas laisser séduire par les pièges de l'ennemi. Cette semaine, on a fait une balade en famille qui arpentait dans les vignes, c'était très joli, mais des fois, le chemin partait un peu dans tous les sens. Je savais qu'on faisait un boucle, mais les enfants se demandaient, où est-ce qu'on s'éloigne pas trop loin, où est-ce que tu nous amènes? Mais moi, en fait, je savais, je voyais, parce qu'on avait garé la voiture au village, centre-village, il y avait le clocher de l'église, et le clocher était élevé, donc pendant tout le balade, je voyais le clocher de l'église, et je savais que, même si le chemin arpentait un peu, je savais qu'on s'approchait de notre destination. En plus, j'avais intérêt parce que ma femme m'a dit ne t'éloigne pas trop parce que je pense que c'est pour bientôt. Donc je regardais ce clocher avec intérêt aussi, même si le chemin tournait à gauche, à droite. Mais voilà, j'avais un cap, j'avais une destination qui, malgré le chemin surprenant, ce cap restait devant moi et je savais qu'on s'approchait du but. Chacun de nous, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous sert dans la vie comme but? Qu'est-ce qui vous sert comme cap, comme mission, comme vision? En avez-vous une pour vous orienter dans la vie? Je peux vous donner un trait général, un trait grand, mais en tant qu'être humain, en tant que chrétien, notre but, notre cap, c'est Jésus, c'est de suivre Jésus, de le glorifier par notre vie. C'est de participer à sa mission, de bâtir son peuple, bâtir son église. Ça, c'est la mission. Donc ça, c'est le but, ça, c'est le cap. Suivre Jésus et bâtir son église. Et ça, on peut faire qu'on soit célibataire ou en famille. On peut faire qu'on ait la santé ou pas la santé. On peut le faire au travail comme à la maison. Suivre Jésus et le glorifier dans la mission. Ça, c'est le général. Après, chacun de nous, je pense qu'il nous donne des projets, des buts plus spécifiques. Comme Néhémie, c'était clair, il devait construire, finir la muraille. Et vous aussi, vous avez certainement un projet que Dieu vous a confié dans la vie. C'est peut-être une vocation, réussir votre témoignage au travail. C'est peut-être vous investir dans une amitié pour partager votre foi ou pour encourager quelqu'un. C'est peut-être élever vos enfants dans le Seigneur. Vous êtes maman, vous êtes papa, et vous savez que voilà, dans cette saison de ma vie, ça c'est un projet, un but, un cap pour moi. Peut-être c'est suivre une formation biblique qui va durer tant de semaines ou tant de mois, et vous devez persévérer ainsi. Ça c'est juste quelques exemples, mais Dieu nous donne un but dans la vie, et les regards fixés sur Jésus, on peut atteindre ce but, ce cap. Si vous savez où vous allez, c'est beaucoup plus difficile de vous dévier. Mais si vous ne savez pas où vous allez, toutes les déviations sont possibles. Donc Néhémie, il savait quel était son but dans la vie, quelle était sa vision, et il tenait bon face à toutes les ruses. Parce qu'il voyait les ruses, je sais que c'est une ruse parce que je cherche à me dévier du but principal. Alors je ne suis pas. Donc Néhémie n'oublie pas le cap, il n'oublie pas le but. Et ensuite, Néhémie, il sait que Dieu ne l'oublie pas. Néhémie a les yeux sur Dieu, mais aussi sait que Dieu a les yeux sur lui. Et vous voyez dans ce chapitre, Néhémie a cette facilité. Tout au long du livre, on sait que Néhémie a une facilité de prier en toutes circonstances, de se tourner vers Dieu. Et une prière qu'il formule souvent commence toujours avec « Souviens-toi, ô Dieu, de ma situation. Souviens-toi de ce que moi je fais. » Donc, juste avant le chapitre 6, vous avez ça, hein, dernier verset du chapitre 5. Ça, c'est une prière qui revient souvent dans ce livre. Néhémie dit, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. On sent des fois, il est fatigué, il est frustré par les attaques, mais il prie cette prière, souviens-toi, ô Dieu, de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et il va dans notre chapitre, il va dire, une prière similaire, verset 14. Souviens-toi, ô mon Dieu, de ses ennemis et ce qu'ils font pour m'effrayer. Et puis ça revient souvent dans les chapitres suivants, notamment à la fin du livre, chapitre 13. C'est la même prière. Souviens-toi, ô Dieu, de ce que j'ai fait. Et c'est même la dernière phrase du livre, comme ça, c'est quelque chose d'important dans ce livre, cette prière de Néhémie. Souviens-toi, ô mon Dieu, de tout ce que j'ai fait pour toi. Alors, c'est une prière qui nous surprend un peu. Néhémie qui dit « Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. » En général, on apprend à ne pas formuler nos prières autour de notre propre personne. « Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. » Moi, je ne suis pas très inclin à prier « Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. » Certains rabbins disent même que c'est un défaut chez Néhémie d'avoir prié ainsi, qu'il est moins spirituel, moins fidèle que Esdras, parce qu'il prie ainsi. Mais je crois pas. Je crois que cette prière déjà vient d'une conscience pure, un cœur innocent. Et des fois dans la vie, voilà, il y a que Dieu qui mesure nos motivations. Et si on est accusé, si on est accusé à tort, si tout autour de nous c'est la piège et la ruse, on peut se remettre à Dieu en disant Dieu, tu sais au fond de moi que je veux te suivre. Aide-moi, malgré ce dont on m'accuse. Donc c'est une prière innocente, il me semble. Mais on peut aller plus loin, chez nous, chrétiens. Cette prière est plus riche, il me semble, lorsque nous lisons ces histoires de l'Ancien Testament à la lumière de Jésus. Ce matin, nous avons chanté « Nous voulons voir Jésus ». Et ce souhait devrait s'appliquer aussi lorsque nous étudions chaque passage de la Bible, y compris les passages de l'Ancien Testament. Nous voulons voir Jésus. Et nous avons appris ces dernières semaines, en étudiant cet homme Néhémie, à aussi y voir Jésus-Christ. Parce que tout comme Néhémie, tout comme Jésus, c'est le gouverneur, le roi, le chef de son peuple. Néhémie est venu bâtir la ville de Jérusalem, tout comme Jésus est venu bâtir la nouvelle Jérusalem. Néhémie a fait face à des menaces, des ruses, des tentations, tout comme Jésus en a fait face à ces mêmes tentations. Néhémie a persévéré jusqu'au bout dans son projet de construire cette muraille, de construire ce peuple, tout comme Jésus a persévéré jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour construire son peuple. Et même ici dans ce chapitre, Néhémie a déjoué trois fois des tentations. Il y a trois tentations claires de l'ennemi. Et tout comme Jésus un jour s'est retrouvé dans le désert face au tentateur, et il a joué trois fois des pièges et des tentations du diable, en s'appuyant sur la parole de Dieu comme Néhémie, en se laissant pas dévier de sa mission comme le diable voulait le faire. Et donc, pour nous, quand nous lisons cette histoire, nous savons que finalement, Jésus, c'est notre Néhémie. C'est notre roi, c'est notre gouverneur qui mène ce projet à l'accomplissement. Jésus, c'est celui qui construit la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, celui qui n'a jamais dévié de ce projet. Et cela fait que nous nous prions maintenant, en tant que chrétiens maintenant, nous ne prions pas tant comme Néhémie en disant « Souviens-toi de tout ce que moi j'ai fait pour toi ». Mais ces paroles, nous les retrouvons plutôt dans la bouche de Jésus. Et nous pouvons prier, nous, souviens-toi, pas de ce que j'ai fait pour toi, mais souviens-toi de ce que Jésus a fait pour moi. Souviens-toi de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Souviens-toi de Jésus et tout ce qu'il a promis par sa mort et sa résurrection. Et c'est cette prière qui nous garde de tous les pièges et des ruses du diable. Quand on est critiqué, quand on est diffamé, quand on est accusé à tort, quand on est découragé, on peut prier. Dieu, souviens-toi de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Souviens-toi, oui, des fois, moi, j'ai succombé aux pièges et tentations de l'ennemi. Mais souviens-toi de Jésus, comment lui, il n'a jamais succombé. Souviens-toi de ses perfections, comme moi, je suis imparfait. Souviens-toi de sa persévérance, comme moi, j'ai du mal à persévérer. Souviens-toi de ce que tu penses de lui, Jésus ton fils, à quel point il est parfait, lorsque moi j'ai du mal à le croire pour moi-même. Et si on apprend à prier ainsi, à voir Jésus ainsi, voilà, nous sommes portés jusqu'au bout de notre vie de foi. Donc voilà les réactions de Néhémie que nous pouvons adopter pour nous-mêmes face aux ruses de l'ennemi. Et enfin, nous terminons avec la réussite de ce projet. Verset 15, je suis content moi-même d'arriver sur ce verset. C'est la réussite. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Donc on a vu que c'est un grand projet, un vaste projet. Ce muraille représentait plusieurs kilomètres, c'était haut, c'était large. Et tout le peuple ensemble, ils ont fini en 52 jours. Donc Néhémie a bien dirigé ce projet, il a fortifié la foi du peuple, tout le monde s'est mis et ils ont terminé le projet. Grâce à Dieu, ni l'opposition de l'extérieur, ni la menace des divisions internes, ni les ruses et les pièges ont pu freiner ce projet. Et en cela, Dieu est glorifié, verset 16. Tous nos ennemis la prirent, ils furent dans la crainte, et ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Donc même les ennemis sont obligés de reconnaître que ce peuple faible, ce peuple petit, ce peuple sans force, ont fait quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Et c'était finalement la volonté de Dieu que ce projet réussisse. Alors, après 52 jours, ça y est, on peut prendre des vacances. on peut baisser les bras, on peut partir en retraite, et le projet est réussi, il n'y a plus rien à faire dans la vie chrétienne. Non, c'est pas ça. Si le livre de Néhémie était uniquement concerné par un projet de construction de murailles, le livre termine là. Mais il nous reste encore 6 ou 7 chapitres. Parce que ce n'est pas terminé. Le vrai projet de Dieu, c'est pas une muraille, c'est son peuple, c'est leur foi, c'est leur sainteté, c'est leur persévérance. Et dans les versets suivants, même le chapitre termine, on a déjà un indice que les problèmes ne sont pas complètement réglés. Que la muraille va pas régler tous les problèmes pour Néhémie. Parce que là, il dit, dans ce temps-là, il y avait encore des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija. Et en fait, on apprend ici qu'il y a des alliances par mariage entre des nobles juifs et les païens, les peuples païens. Et ça va causer pas mal de soucis à Néhémie en tant que chef du peuple pour gérer lorsqu'il y a, même des personnes, des mariages. Comment et tout le monde a un intérêt à l'embêter. Donc, ils avaient beau construire une muraille pour se garder des ennemis extérieurs, mais finalement, nous apprenons tous que l'ennemi, le mal, se trouve à l'intérieur aussi. Parfois à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos foyers. Et là, c'est là encore un piège, une ruse de l'ennemi. Et il est bon pour nous d'apprendre que, voilà, un projet physique, un aboutissement d'un projet physique n'est pas la fin du combat de notre vie de foi. On se réjouit quand il y a un baptême. Mais un baptême, c'est pas un aboutissement. Ce n'est pas la fin du bon combat de la foi. On se réjouit d'être dans un nouveau bâtiment et de voir tout ce que Dieu a fait pour nous, mais c'est pas un aboutissement. C'est pas la fin de la vie de foi. Voilà, on peut être nommé responsable, diacre, ancien, pasteur, mais c'est pas une fin en soi. On peut compléter des cours découvertes ou une formation, mais c'est pas encore la fin de notre vie de foi. Et la ruse du malin, parfois, c'est de nous faire croire qu'on est déjà arrivé lorsqu'on a réussi quelque chose. Mais il reste encore toute la vie. La fin, ce n'est quand Jésus revient et qu'on est dans sa présence. Alors, comme dans le sport, il faut se rappeler que le match n'est pas fini avant d'être fini. Parfois, ils doivent se rappeler, même s'il y a un but qui est marqué, et on a tendance de vouloir se réjouir, le match n'est pas fini avant d'être fini. Votre vie chrétienne n'est pas finie avant d'être finie. En quel que soit le projet auquel Dieu vous appelle. Mais nous savons que Dieu va nous porter. Et la réussite de ce projet avec Néhémie nous rappelle la réussite du projet de Jésus qui va bâtir son peuple, qui va bâtir la Jérusalem céleste. Et là, c'est un projet qui garantit de réussir. Alors nous pouvons encore ce matin fixer nos regards sur Jésus qui va mener à bien son projet dans nos vies pour construire notre foi et pour nous faire arriver sains et saufs au ciel dans sa présence. Que Dieu vous encourage à persévérer, à ne pas se laisser induire dans la tentation, mais que vous puissiez déjouer les ruses du diable et rester fidèle en suivant Jésus-Christ en terminant dans la prière. Seigneur, nous voulons célébrer chaque victoire que tu as accomplie dans notre vie. Nous voulons te donner la gloire. Tu nous fais avancer, tu nous fais remporter des combats, des batailles, des luttes spirituelles, parce que sans toi, nous serons sans force, nous serons une proie facile à l'ennemi, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Mais nous voulons pas baisser les bras, et nous voulons toujours persévérer et continuer, étape par étape, année après année. Et je te prie de encore former, forger, fortifier notre foi en tant qu'Église, et que tu nous mènes dans tes voies, dans tes projets, que nous puissions les accomplir pour ta gloire. Béni sois-tu pour le culte que nous avons vécu ensemble ce matin, que chacun ici soit fortifié dans les défis, les obstacles que nous avons au quotidien, mais nous savons que tu es à nos côtés et tu vas nous délivrer. Nous prions toutes ces choses avec reconnaissance, avec humilité, au nom de Jésus-Christ. Amen.